Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un numéro spécial que nous vous proposons aujourd'hui, un numéro consacré à la COP21 à Paris. L'émission se déroulera en deux temps. D'abord, nous allons suivre un entretien avec la présidente du groupement d'ONG Action contre la faim. Un entretien réalisé donc à Paris où se trouve notre envoyé spécial Mohamed Touré et toute une équipe de la Fondation Hirondelle. Le sujet abordé, c'est les liens entre le changement climatique et la sécurité alimentaire. Un sujet d'autant plus d'actualité ici au Mali. Selon une ONG allemande qui vient de publier son rapport, plus de 58% des Maliens souffriraient de faim. Alors, place à l'équipe de Paris.
Madame Stéphanie Rivoala, vous êtes la présidente de Action contre la faim, un groupement d'ONG présent dans plus de 47 pays à travers le monde. Alors, vous êtes à la COP21 et vous avez animé une conférence sur la sécurité alimentaire et la productivité agricole. La sécurité alimentaire, pour vous, c'est quoi?
Alors, la sécurité alimentaire repose sur 4 piliers. Et c'est vraiment ça qui la différencie de la production alimentaire ou la production agricole. Le premier, c'est la disponibilité des aliments. Donc ça, effectivement, il y a un lien. Plus il y a de production agricole, plus il y aura de disponibilité des aliments. Le deuxième, et il est essentiel, c'est l'accès à ces aliments par les populations. On peut avoir des aliments disponibles, mais des personnes trop pauvres, trop précarisées, qui n'auront pas les moyens monétaires d'avoir accès à cette alimentation. Ça, c'est vraiment ce qui crée le gros de l'insécurité alimentaire. Le troisième pilier, c'est la qualité nutritionnelle de ces aliments. On ne peut pas se nourrir essentiellement de céréales. Les enfants auront un régime alimentaire trop pauvre et créeront ce qu'on appelle la malnutrition chronique. Et elle est, je dirais, au moins aussi grave que la faim qui tue, puisqu'elle peut créer des retards de croissance et des retards de développement intellectuel, et donc des adultes qui ne seront pas du tout en manière d'avoir une vie normale. Mal et épanoui. Et le dernier point, c'est la régularité. On peut avoir tous les aliments disponibles, accessibles et en bonne qualité nutritionnelle, il faut qu'on les ait tout au long de l'année. C'est vraiment ce qui différencie la sécurité alimentaire de la production ou de la productivité agricole.
Alors pour les pays du Sud, notamment des pays comme la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Burkina Faso, bref, pour les pays du Sud, est-ce que cette sécurité alimentaire, elle est assurée?
Ah non, elle n'est pas assurée. Sur le continent africain, il y a 240 millions de personnes qui souffrent de la faim sur les 795 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Le continent africain est celui qui a les plus hauts taux de malnutrition dans le monde. Il y a plus de gens qui souffrent de la faim en Asie en nombre, notamment en Inde, mais le continent africain reste le plus affecté. Ce qui est quand même un comble, puisque uniquement 20% des terres arables sont cultivées. Donc on pourrait quand même cultiver tout le reste dans un premier temps. Et c'est l'une des terres les plus rentables, les plus productives, les plus fertiles de la planète. Donc on est face à un paradoxe, il faut résoudre cette équation. Il faut recréer, selon moi, un lien, et je n'insisterai jamais assez là-dessus, entre l'agriculture, l'alimentation, la nutrition et la santé. C'est un continuum qu'on a perdu de vue. L'agriculture, ce n'est pas un business comme les autres, c'est celui qui nourrit et qui doit vraiment être à la base de la vie humaine. Donc ce n'est pas un bien comme les autres, on ne peut pas l'exporter comme on exporte toute autre chose, il faut que ce soit quelque chose de différent.
Alors, vous dites que cette sécurité alimentaire n'est pas assurée dans la plupart des pays africains, comment vous l'expliquez? Quelle explication peut-on en donner?
Alors, on l'explique notamment par cette notion d'accès. Donc, il y a en général une production locale suffisante. Je dis en général parce que suite à des épisodes, et c'est là où on va faire ce lien avec le changement climatique, d'inondations, de sécheresses, mais aussi, plus mal connu, c'est les pics de chaleur. En plein milieu d'une récolte, quand on a un coup de chaud, ça met à plat la récolte pour l'année entière. Donc, il y a ce souci tout de même d'une baisse, et il y aura une baisse d'ailleurs des rendements agricoles avec le changement climatique, de 10% selon les estimations les plus optimistes, donc c'est déjà pas mal. Donc la production va souffrir, elle est aujourd'hui peut-être quasi suffisante et encore pas tout le temps, mais il y a surtout ce problème d'accès à la nourriture, ce problème de pauvreté, de développement économique, d'éducation des populations, qui n'est clairement pas suffisant pour qu'elles puissent s'acheter la nourriture. Donc il faut que les marchés soient achalandé, mais il faut que les gens puissent avoir les moyens monétaires de l'acheter. Et pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce qu'il y a l'Afrique dépend de manière alimentaire notamment des importations. Donc la vaste majorité des aliments consommés sont importés et les terres sont cultivées pour les exportations. Donc c'est cette équation qu'il faut inverser pour restaurer la sécurité alimentaire des populations et je dirais même la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité des peuples à se nourrir eux-mêmes.
Donc en Afrique, on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas, comme le café, le cacao et le coton.
C'est tout à fait ça, les bananes et le reste.
Alors pour vous interroger avec moi, bienvenue Gbeo, bienvenue, une question.
Oui, je voulais rebondir un peu sur la question de l'accès. Aujourd'hui, en République centrafricaine, on a un accès qui devient de plus en plus difficile aux aliments de base. Et les femmes se plaignent parce que ils n'arrivent plus à avoir accès à ces aliments qu'ils avaient autrefois. Et c'est dû aussi quelque part aux effets des changements climatiques. Mais vous, Action contre la faim, qu'est-ce que vous pourrez faire pour un pays comme la RCA et pour que la population puisse avoir accès un peu facile, ne fût-ce qu'aux aliments de base?
Vous êtes centrafricain, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Bon,
écoutez, je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qui se passe dans votre pays, mais je vous livre mon analyse et vous pourrez me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Il y a clairement le problème de la production agricole et de l'accès, mais il y a aussi, notamment dans le cas de la Centrafrique, le conflit récent qui a eu tout de même comme effet collatéral avec les conflits musulmans, anti-Balakas et les cas, de finalement faire fuir les musulmans qui, je ne vous l'apprends pas, j'en suis sûre, étaient ceux qui étaient les marchands et qui achalandaient les marchés. Donc je pense qu'il y a un effet en plus, dans l'effet conflit, l'insécurité, l'accès aux terres qui n'est plus garanti, donc on cultive moins, une déstructuration de la chaîne marchande, avec le départ en masse de populations musulmanes qui étaient la cheville ouvrière des marchés. Et ça vient s'ajouter en plus avec les effets du changement climatique et le fait que la RCA est malheureusement l'un des pays aussi les plus pauvres d'Afrique dans son ensemble. Donc il y a un cumul, malheureusement pour votre beau pays, il y a un cumul d'effets qui sont désastreux pour les populations, pour les femmes et les enfants, qui sont, par ailleurs, j'en profite pour le dire, les premières victimes du changement climatique. 95% des décès qui seront liés au changement climatique seront des enfants. Donc c'est vraiment ces populations-là qui vont en souffrir en premier, et c'est certainement pas la Centrafrique qui a été à l'origine du changement climatique. Donc on est face à une injustice climatique et un paradoxe qu'il faut redresser. On pourra essayer de trouver des solutions, mais c'est vrai que la RCA cumule malheureusement beaucoup de conditions néfastes pour la sécurité alimentaire.
Alors, concernant, vous parlez du changement climatique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Il y a certaines cultures qui consomment plus d'eau, il y a certaines cultures qui résistent à la sécheresse. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer les choses à ce niveau quand on prend les pays africains qui consomment beaucoup de riz, le riz qui consomme, qui absorbe beaucoup d'eau ? Est-ce qu'il ne faut pas changer carrément de politique au niveau agricole ?
Ah, il y a beaucoup de questions dans votre question. La première, c'est bon, il y a l'atténuation, l'adaptation, ça c'est l'un des gros sujets de la COP21. Bien sûr, l'Afrique doit être sur l'adaptation et les pays du Nord sur l'atténuation. Donc il faudrait quand même que les pays du Nord dégagent moins de CO2 et que les pays en Afrique s'adaptent aux nouvelles conditions climatiques qui ont déjà des effets aujourd'hui. On a l'impression qu'on parle de 2020-2050, mais c'est aujourd'hui. Les inondations, les sécheresses, c'est aujourd'hui. Donc cette adaptation, il faut qu'elle se passe. Alors bon, nous on alerte sur les fausses bonnes solutions. Les fausses bonnes solutions, comme l'agriculture intelligente face au climat, une initiative qui a le mérite d'exister, mais qui s'est vue un peu kidnappée par des groupes industriels qui ont des solutions un peu toutes faites qui les arrangent et qui ne laissent pas suffisamment de place aux organisations paysannes locales qui ont d'autres solutions à proposer. Elles ne sont pas assez présentes. En plus de ça, les solutions apportées n'ont pas des critères de suivi, notamment sur les effets environnementaux et sociaux des solutions proposées. Donc il faut faire attention. Avoir une nouvelle plante magique, un peu, qui aura le mérite d'utiliser peu d'eau, être résistante aux coups de chaud et qui, miraculeusement, n'aura pas besoin d'un tranche chimique, moi, je n'y crois pas beaucoup. Moi, je mise sur la nature. Il faut avoir de l'innovation en agriculture et cette innovation, elle doit être sur la création d'écosystèmes avec des éléments naturels. Quel poisson, quel animal, le canard dans les rizières, c'était il y a je ne sais plus combien, 100 ans qu'en Chine, ils ont trouvé ce système qui a quand même augmenter la production rizicole de manière, c'est miraculeux. Moi, je ne suis pas du tout agronome. Moi, je trouve ça miraculeux. Alors, ça a l'air très simple, finalement. Il faut faire de l'innovation agricole en créant des écosystèmes à base de la nature. Donc ça, c'est ma suggestion numéro un. La deuxième, sur la nutrition. Je crois qu'on a tous des progrès à faire, hein, notamment les pays du Nord qui s'avancent vers des taux d'obésité jamais vus. C'est quand même pas à nous de vous donner des leçons sur comment se nourrir, vu ce qu'on absorbe et la manière dont on s'intoxique à petit feu, tout en dépensant de moins en moins d'argent par aliment, mais des éléments toxiques. En revanche, oui, si je devais quand même essayer, tenter de donner des conseils sur l'alimentation, on sait bien qu'en Afrique, vous êtes très friands de céréales, hein, avec pas forcément de tendance importante sur les légumes. Donc, je ne vais pas vous faire une leçon de CE2-OCP, mais manger 5 fruits, 5 légumes par jour. Enfin, en tous les cas, il faut rééquilibrer le régime alimentaire, notamment pour les enfants. Alors, nous, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on donne, par exemple, des cours de cuisine avec les femmes. Elles nous montrent comment elles cuisinent, elles, et nous, on leur fait des suggestions, notamment sur la cuisson des légumes. Si on cuit trop longtemps un légume, il perd ses qualités nutritionnelles, ses vitamines. Donc, c'est avec les femmes et en tenant compte de leurs contraintes que l'on peut essayer d'améliorer. Changer radicalement votre régime alimentaire, les changements culturels mettent minimum 5 ans pour être mis en œuvre, si ce n'est pas plus. C'est long, on est sur des populations qui ont déjà de gros efforts à faire en adaptation. J'irai pas vers un changement du régime nutritionnel, j'irai vers des pratiques d'alimentation meilleures avec l'existant. Ce serait plutôt vers là que j'irai.
Alors, il y a un autre phénomène aussi sur le continent, de l'accaparement des terres par les multinationales qui font des agrocarburants. C'est un autre danger aussi pour la sécurité alimentaire sur le continent.
Alors justement, j'avais des exemples avant de venir. Bon, l'accaparement des terres, c'est vraiment un sujet très important qui est lié au foncier. Alors les chiffres, on a du mal à les trouver. Déjà, c'est pas un bon signe. Hein. Le manque de transparence est alarmant sur les hectares de terres qui sont vendus ou loués à des étrangers, voire des non-africains. Et là, on a par exemple 26 millions d'hectares. Alors moi, je vois pas trop ce que ça représente, mais entre 2000 et 2012, il y aurait 26 millions d'hectares accaparés, vendus, loués à des fins non alimentaires. Et ça, j'insiste, parce que ces multinationales qui louent ou achètent, c'est certainement pas pour produire des aliments pour les populations. C'est pour produire d'autres choses. Alors, on a les palmiers à huile, hein, y en a vraiment partout. On a les agrocarburants, on a le riz que l'Arabie Saoudite cultive au Sénégal, je crois, mais pour sa propre consommation. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le sucre pour l'éthanol en Sierra Leone par une société suisse. Désolé pour la radio, mais c'est comme ça. Des investisseurs asiatiques aussi, pas seulement américains, même si ils sont quand même assez présents sur ça. Donc c'est un phénomène qui est un vrai problème. Alors comment on arrête ce phénomène? Je pense qu'il y a une véritable régulation, je suis pas forcément pour ça à tout craint, mais il faut absolument que les dirigeants africains régulent le foncier un petit peu mieux et que ces terres qui sont vendues de manière beaucoup trop peu chère puissent être à minima vendues plus cher, ou bien, comme les directives volontaires sur le foncier, elles ne sont que volontaires, elles pourraient devenir obligatoires, c'est-à-dire quand on achète une terre, il est obligatoire d'impliquer la communauté qui vit sur cette terre dans le projet, de voir quels effets environnementaux, sociaux vont avoir le projet, et ces directives volontaires, malheureusement, devraient devenir obligatoires, et ça résoudrait les choses. Donc il y a de l'éthique, j'appelle ça de mes voeux, mais il se trouve que l'éthique n'est pas monnaie courante par les temps qui courent, donc vaut mieux l'inciter et ensuite essayer de voir si ça prend.
Bienvenue.
Oui, madame, en cette période de perturbation du climat, en République centrafricaine, il y a la FAO et le gouvernement qui sont en train de mettre en place un système d'alerte précoce pour prévenir la population agricole sur des éventuelles perturbations et des périodes de sémis. Et votre organisation Action contre la faim est présente aussi en République centrafricaine. Que pourra faire votre organisation pour accompagner ce programme qui sera bientôt mis en place par la FAO et le gouvernement?
Alors, nous, on trouve que c'est essentiel, effectivement, de faire de la prévention et l'alerte précoce. Et on a un système satellitaire depuis plusieurs années. Beaucoup, maintenant, le font. Il se trouve que nous, on met l'accent dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des images satellites qui permettent de voir l'évolution de la biomasse. Donc ça nous permet de savoir exactement où en est la production végétale à un instant T. Et ça nous permet de prévoir s'il va y avoir une bonne ou une moins bonne récolte, de prévenir les populations pour ensuite avoir des moyens d'adaptation locaux. Donc ça, c'est l'utilisation de la technologie. Là, on est dans la haute technologie au service vraiment des populations. Donc nous, on développe toute une série de programmes hein, sur la résilience, comment faire des stocks en amont de ces incidents-là. Comment aussi, et j'aime beaucoup ça, même si c'est un petit peu un pas de côté que je vais faire, mais des sortes de coopératives, mais nouvelles versions, où finalement, on voit bien que les paysans vendent tous en même temps peu cher, et ensuite, quand il y a de la rareté, les prix montent, mais ils ne peuvent plus vendre. Et ils ont été obligés de vendre parce qu'ils n'avaient pas les moyens alimentaires, les moyens monétaires pour se nourrir eux-mêmes. Donc, il faut créer des systèmes à base de crédits bancaires qui permettent aux paysans de ne pas vendre tous en même temps, d'étaler leur vente et de bénéficier de prix plus importants. Et ça, c'est aussi dans des systèmes d'alerte, quand on peut prévenir la rareté d'une denrée alimentaire et finalement aussi en prévoir le prix et permettre aux personnes de les vendre au meilleur prix pour elles. Donc nous, on développe, on est aux côtés de ces coopératives-là qui sont co-gérées et co-détenues par les paysans. Donc c'est vraiment leur business, leur affaire. Et puis parallèlement à ça, on les aide à faire des produits semi-finis. C'est un peu dommage quand on est un paysan africain de vendre de la matière brute, alors que sur les marchés, avec des mises en petits sacs et une présentation un peu différente, on le vend beaucoup plus cher. Donc c'est ça qu'il faut développer, des filières et puis des alertes sur les récoltes pour prévoir et avoir des mesures d'adaptation de résilience.
Alors, avec les changements climatiques, est-ce que de nouvelles émeutes de la faim sont à craindre sur le continent ?
Les émeutes de la faim, ça a été un phénomène qui, bizarrement, n'a pas mobilisé les plus vulnérables. Nous, on a fait des analyses à la suite des variations des prix des denrées agricoles. Les populations les plus vulnérables n'ont de toutes les façons pas les moyens de se nourrir, par définition. Donc le prix monte, le prix baisse, elles sont un petit peu plus affectées, mais elles étaient déjà tellement affectées qu'on n'a pas vu d'évolution majeure sur les taux de malnutrition à la suite de ces variations. Donc là, on part d'une autre population légèrement plus aisée, qui elle mange mieux et beaucoup plus affectée par les variations des prix. Alors oui, je pense que si les accords de Paris, dans quelques jours, ne sont pas aussi ambitieux qu'on le souhaite, on aura des effets retard dans plusieurs années qui peuvent être désastreux, avec la baisse des rendements, la montée de la démographie, les conflits qui posent des restrictions sur l'accès aux terres, la raréfaction de l'eau et le poids des multinationales qui manipulent un peu le tout, on n'a pas une combinaison d'éléments qui seront favorables. Donc en revanche, ça va être favorable à des choses beaucoup plus graves qui sont de l'insécurité exacerbée. J'ai vu il y a pas très longtemps un berger tunisien qui expliquait qu'il était dans une zone détenue par des groupements terroristes et qu'il avait un choix véritablement cornélien qui était celui de rejoindre et de se lancer dans le terrorisme finalement pour voir sa famille ou bien urbaniser, sauf qu'en Tunisie aujourd'hui il n'y a plus de débouchés dans les villes, donc il était en plein désarroi. Quand on voit le désarroi des populations d'éleveurs ou d'agriculteurs, on voit bien qu'on va les mettre dans des situations impossibles. Donc il faut redresser le tout, moi je reste optimiste, il faut l'être, et je crois surtout que la solution elle est africaine. Il faut que les Africains, en gouvernance en particulier, définissent les politiques qui leur sont propres, et enfin reprennent le dessus dans les négociations locales.
Alors sans doute la dernière question, un mot sur la COP 21 qui se déroule en ce moment à Paris. À ce stade de la discussion, quelle analyse faites-vous de tout ce qui se passe en ce moment à Paris ? Un accord qui sera en vue, mais encore des points à régler ?
Alors déjà, il y a eu un groupement de pays africains que je salue dernièrement, qui a tapé du poing sur la table. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que les pays africains tapent du poing sur la table pour demander ces fameux paiements des pertes et dommages et ces fameux financements pour l'adaptation. Ils sont en train de le faire et ça va payer. Parce qu'il n'y aura pas de choix au final. Ces négociations, elles sont très dures et on est dans un rapport de force. Moi, j'ai envie de finir sur une note positive. On se bat depuis des mois pour avoir l'introduction de la sécurité alimentaire dans l'accord. Vraiment en tant que mot, en tant que vocable. C'est dans le préambule. C'était déjà une grande avancée. Mais le préambule n'est pas très engageant. En revanche, on n'a pas été sorti encore, on est plutôt dans la négation, d'un article opérationnel qui permettrait d'engager les États, de mener des politiques qui préservent la sécurité alimentaire. Donc moi, je vais me réjouir aujourd'hui de ce point-là. Il faut continuer, on n'est pas au bout. Je pourrais être une ONG un peu entre guillemets comme les autres et dire c'est pas assez. Maintenant, les équations dans lesquelles sont les pays et les négociations sont complexes et moi je me réjouis que la sécurité alimentaire soit dans les accords.
Madame Stéphanie Rivoal, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de Action contre la faim. Merci.
Merci à vous de m'avoir invité.
Retour dans ce studio ici à Bamako, juste pour vous signaler que nous restons toujours à Paris dans le cadre de ce numéro spécial COP21. On maintient donc le cap sur Paris, mais on change d'angle. Ainsi, après l'interview que la présidente du groupement d'ONG Action contre la faim accordée à notre équipe à Paris, nous vous proposons à présent un débat. Il a pour sujet la responsabilité des multinationales et des États dans la lutte contre le changement climatique. Nous retrouvons donc Georges Ibrahim Tungara et Kadiatouba à Paris.
Bienvenue dans ce studio pour un autre débat qui est consacré à la COP21, la conférence de Paris sur le climat. Georges Ibrahim Tungara, ce micro, et avec moi pour ce débat, Kadiatouba. Et nous avons avec nous trois invités. Il s'agit de Monsieur Benjamin Bibas de la Fondation de l'écologie politique. Et auprès de vous, deux autres personnalités, Monsieur Raimundo Ela Nzang, qui est ingénieur pétrolier. Auprès de Monsieur Ezang, il y a Monsieur Marc Ona Essangui, secrétaire général exécutif de l'ONG Brain Forest. Alors, avec vous, nous allons parler de la COP21 et de vos différentes activités. Vous luttez pour la préservation de l'environnement en Afrique, c'est bien cela, Monsieur Marc Ona Essangui?
Oui, je vous remercie. Je suis responsable de Brain Forest, c'est une ONG de droit gabonais. Et en même temps, je suis prix Goldman, qui est l'équivalent du Nobel environnement que j'ai reçu en 2009 à San Francisco.
Félicitations à vous pour ce prix, même s'il date de 2009. Monsieur Raimundo Ela Ezang, vous êtes aussi activiste dans le domaine de l'écologie.
Oui, je suis d'abord ingénieur pétrolier qui a travaillé en tant que, disons, dans le domaine de l'environnement, et que ensuite je me suis consacré en politique, après avoir constaté que la lutte pouvait se mener beaucoup plus efficacement en politique, parce que les décisions politiques étaient à la fin celles qui pouvaient faire bouger les lignes. Donc, depuis là, je suis secrétaire général d'une parti politique qui s'appelle la CORET.
Alors, vous avez publié plusieurs notes dans le domaine de l'environnement et ces notes ont été mises en onde, mises en œuvre par une fondation, la FEP, la Fondation de l'écologie politique. C'est quoi cette fondation, Monsieur Benjamin Bibas?
La Fondation de l'écologie politique est une fondation qui est adossée au parti politique Europe Écologie Les Verts en France. Vous savez qu'en France, mais aussi en Allemagne, tous les partis politiques ont derrière eux des fondations qui ont pour fonction de produire des idées, de la réflexion, de façon à ce que les programmes des partis politiques ne viennent pas de nulle part ou ne soient pas uniquement sur une base idéologique, mais soient aussi fondés sur de l'information, de la recherche, soient fondés sur des faits. Et pour ma part, donc, je suis journaliste, documentariste, je m'intéresse beaucoup à la République démocratique du Congo depuis une dizaine d'années maintenant. Et mes recherches sur la justice pénale internationale m'ont amené à comprendre que souvent les violations graves des droits humains sont liées à l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, raison pour laquelle j'ai travaillé ensuite sur l'économie du diamant, puis sur l'économie du pétrole. Et au fil de ces documentaires qui ont été diffusés sur Radio France, France Culture, la Fondation de l'écologie politique m'a demandé de synthétiser ces recherches entre violations graves des droits humains, exploitation des ressources naturelles, à l'occasion de la COP21, pour publier donc une note « COP21, réparer l'injustice climatique en Afrique », qui a été rédigée sur la base d'interviews avec des écologistes africains, dont les deux qui sont autour de cette table.
Monsieur Marc Ona Essangui, vous pensez que voilà, l'écologie est véritablement menacée en Afrique? C'est le titre de la dernière publication de la Fondation de l'écologie politique, COP21, réparer l'injustice climatique en Afrique. Il y a une injustice climatique qui est faite à l'Afrique?
Il y a une injustice climatique qui est faite tout simplement parce que quand vous considérez l'Afrique avec les forêts du bassin du Congo, vous allez vous rendre compte que c'est la région la plus riche en Afrique, la plus riche, c'est-à-dire en termes de matières premières. Vous avez le pétrole, vous avez l'uranium, le fer et vous avez la forêt. Le véritable problème qui se pose dans toutes ces ressources, c'est que leur exploitation ne profite pas à la population, profite plutôt aux multinationales, et la population est devenue non seulement une population victime à deux niveaux, victime parce qu'elle ne bénéficie pas des retombées de ces ressources naturelles, de ces exploitations, victime parce que nous avons ces populations en même temps qui souffrent des pathologies liées à la mauvaise exploitation, c'est-à-dire ce ne sont pas des exploitations qui sont à l'image de ce qu'on pourrait faire dans un pays de droit, c'est-à-dire respecter les dispositions légales, mais parce qu'il y a une collusion entre les hommes politiques qui sont à la fois dirigeants du pays et partie prenante dans les multinationales. Et par conséquent...
Vous parlez de collusion. Qu'est-ce que concrètement vous voulez dire? Collusion entre les hommes politiques et les multinationales?
Je vais vous prendre des exemples concrets. Je suis du Gabon.
Oh oui.
Et nous avons tout simplement constaté, après la mort de Bongo Père, qui a régné pendant 42 ans, nous avons constaté qu'il a laissé derrière lui une sorte de holding de l'État Synergie qui regroupe toutes les entreprises où il avait des participations. Alors que le code qui gère les fonctions, les fonctionnaires, c'est-à-dire les employés de l'État, interdit à tout homme politique, à tout fonctionnaire, de mener des activités lucratives. Or, le président de la République, lui-même, avait des parts dans toutes les entreprises au Gabon. 10% des parts au départ, sans oublier l'argent que lui-même pouvait mettre pour augmenter sa participation dans les entreprises. Dans ces conditions, les multinationales n'avaient que des chèques en blanc pour faire tout type d'exploitation, sans tenir compte de la santé des populations, sans tenir compte de l'environnement dans ces pays.
Avant de vous donner la parole, hein, Kadiatou Ouba, juste une question à Monsieur Raimundo Ela Nzang, qui est équato-guinéen. C'est le même constat que vous faites pour ce qui est de la Guinée équatoriale?
Oui, je crois que le constat est le même. Même en allant au-delà de la Guinée équatoriale, on peut dire que c'est la même chose qui se
tous
passe au Congo. Voilà, c'est
en
Afrique. Le constat est le même. Je ne vais pas encore répéter ce qu'a dit mon collègue Marc. Je vais tout simplement donner quelques précisions encore sur ce qu'il a décrit, comment les exploitations pétrolières peuvent être dangereuses pour les populations. Par exemple, quand on puisse un peu plus techniquement, je dirais que vous savez que les entreprises pétrolières sont très conscients que les régimes sur place sont instable, c'est-à-dire c'est la dictature qui peut tomber à n'importe quel moment. À partir de ce constat, les entreprises pétrolières font ce qu'on dit, ils veulent exploiter le pétrole ou les ressources naturelles le plus vite possible. Ils tablent la production sur la stabilité du régime. De telle façon que si on arrive à trouver des régimes stables en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, nous pouvons, en ce cas-là, pouvoir renégocier avec les entreprises pétrolières sur la façon d'exploiter nos ressources pour les faire de façon plus durable. En tant qu'ingénieur, par exemple, je savais que nous avions beaucoup plus de problèmes parce que le temps que le pétrole sort d'ici pour écouler là-bas, l'eau doit se décanter pour pouvoir permettre que l'eau de production soit propre. Mais si on le simple fait de diminuer un peu les débits de production va faire que l'eau ait suffisamment de temps de sortir plus propre et nous aurons moins de travail à faire au point de vue écologique. Mais ce n'était pas le cas parce que les entreprises savaient que les régimes ne sont pas stables, donc on doit produire le maximum de pétrole dans le minimum de temps.
Donc, pour vous résumer, les régimes non démocratiques sont de bons alliés pour les multinationales qui exploitent la forêt, qui exploitent le pétrole un peu partout sur le continent.
Je dirais pas qu'ils sont de bons alliés. Je dirais que depuis des années, c'est pas quelque chose qui est lié simplement à la Guinée équatoriale, au Gabon. Parce que, à part être ingénieur pétrolier, j'ai fait un master en management des commerces internationaux à l'INSEC de Paris, où j'ai écrit un rapport qui tire les conséquences de l'exploitation pétrolière depuis le Moyen-Orient. C'est-à-dire les industries pétrolières, c'est des industries qui ont su s'adapter à toutes sortes de situations qui arrivent au pays. Par exemple, je vous donne, on parle de terrorisme là maintenant. Vous savez que tant il y a la guerre au Moyen-Orient, les terroristes, ils exploitent quand même le pétrole.
On vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Raimundo. Voilà. Rapidement, Monsieur Bibas, oui, vous voulez ajouter quelque chose?
Je voulais faire, si j'ai bien compris ce qu'a dit Raimundo Enansang, mais je veux bien être sûr, Raimundo, vous dites que plus l'exploitation du pétrole est intense et rapide, ouais, et plus elle a tendance à polluer. Et donc les multinationales qui exploitent le pétrole dans le golfe de Guinée, voyant le caractère autoritaire des régimes et donc du coup leur instabilité, ont tendance à exploiter plus vite et donc à polluer davantage. C'est ça que vous dites?
À polluer davantage et surtout à mettre plus de pression sur le travail technique. Je ne vous dirai pas que les entreprises ne prennent pas les mesures, parce que notre travail était justement ça. On devait assurer que l'eau sortait dans des normes. Donc, d'où la difficulté de... C'est-à-dire, on ne peut pas l'assurer à 100% parce que c'est difficile de le faire.
C'est bon.
Monsieur Raimundo, vous l'avez dit que l'exploitation pétrolière provoque la pollution de l'environnement. Justement, est-ce que vous avez une idée du taux des espèces animales et végétales qui ont disparu dans le golfe de Guinée?
Je ne pourrais pas vous dire que j'ai, parce que je ne suis pas biologiste, chacun doit se résumer à son niveau d'expertise, mais je pourrais vous dire que pour l'exploitation pétrolière, ce qui ressort aujourd'hui, c'est que il y a par exemple des animaux comme des tortues marines qui sont menacées en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée. Vous savez que aussi l'exploitation pétrolière en Afrique centrale, au golfe de Guinée, a une caractéristique spécifique, c'est-à-dire le pétrole est à la fois produit offshore et onshore, d'accord? Donc nous avons des dégâts environnementaux dans la mer et sur les forêts. Et ce qu'il faut aussi encore redire ici, c'est que le golfe de Guinée contient le deuxième poumon du monde.
Après l'Amazonie.
L'Amazonie. Donc, d'où l'intérêt de relier l'exploitation pétrolière au climat. Vous voyez? Donc, je vous dirais, des espèces comme des tortues marines sont en voie de disparition. Il y a 4 espèces qui sont menacées. C'est ça que je peux vous dire exactement. Mais la biodiversité dans cette zone-là est tellement immense que des conséquences sont vraiment... Je l'ai mis dans le rapport, plus de 500 espèces de reptiles. Vous voyez, donc, voilà mon constat.
Alors, le diagnostic, il est clair. Hein, il y a beaucoup de dégâts sur l'écosystème, sur la santé même des populations. Vous l'avez dit. Alors, comment réparer tout cela, cette injustice qui est faite à l'environnement sur le continent et qui est l'œuvre de multinationales, pas seulement des multinationales, hein, l'État, la responsabilité aussi des États qui est en cause dans tout cela, Monsieur Marcona et Sangui?
Ouais, je pense que la réparation...
Comment prévenir et réparer tout cela? Comment prévenir d'abord?
Ouais, c'est pas d'abord en termes d'argent, parce que le débat ici à la COP21, c'est de mobiliser 5 milliards de dollars par an pour à partir de 2020. Je pense que là, on fausse le débat. Le débat se situe au niveau non seulement du respect des lois dans nos pays, et en même temps du respect de l'exploitation de nos ressources. Qu'est-ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui? Raimundo a parlé de l'exploitation pétrolière qui génère peut-être une bonne partie de gaz à effet de serre, mais on a tendance à oublier que l'exploitation forestière, pour le cas du Gabon, génère l'essentiel de ce gaz à effet de serre. Mais pendant qu'on le dit, pendant que le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo viennent ici pour dire voilà, il faut réparer, en même temps vous avez ces pays qui attribuent des permis énormes à des multinationales qui viennent juste pour la monoculture du palmier à huile, de l'EVA et autres. Ça veut tout simplement dire que la déforestation qu'ils dénoncent et qui serait à l'origine des émissions de gaz à effet de serre dans ces pays-là, alors que cette déforestation, en termes d'exploitation forestière normale, se fait dans certains pays avec le respect, par exemple, du diamètre de coupe, le respect du reboisement. Or, quand vous attribuez 1 million d'hectares pour l'exploitation, pour la plantation de l'huile de palme ou de l'EVA, c'est une déforestation qui n'épargne non pas des espèces, mais qui n'épargne même pas de... Donc, on dévaste complètement la forêt pour replanter le palmier à huile. Mais on oublie que 50 000 hectares, 1 million d'hectares coupés, c'est le couvert végétal qui prend un coup. Ça veut dire qu'on augmente le taux d'émission de gaz à effet de serre.
Concrètement, Monsieur Malcona et Sangui, qu'est-ce qu'il faut faire
pour mettre
un terme à tout
ce
cela?
Ce qu'il faut faire, il faut arrêter en Afrique de faire venir des multinationales qui ont pour objectif l'accaparement des terres. S'accaparer des terres pour planter des ressources ou bien des produits qui ne profitent pas aux populations, mais qui profitent aux usines de biocarburants en Malaisie ou ailleurs à Singapour. Il faut arrêter ce type d'exploitation. Il faut encourager, je dirais, l'exploitation des produits forestiers non ligneux, par exemple. Il n'y a pas que le bois pour... Nous avons aussi d'autres produits qui peuvent faire en sorte que nos forêts soient préservées. Il y a le tourisme qu'on peut facilement développer.
Est-ce que c'est un problème d'argent? Les États ont besoin d'argent, donc sont prêts à brader tout?
C'est pas un problème d'argent parce que ce que nos ressources génèrent en termes d'argent sans pour autant aller vers la surexploitation peut aisément développer nos pays. Mais c'est la boulimie de certaines multinationales qui ont besoin de terres, qui ont besoin de produits naturels. Je vous prends un cas, par exemple. Au Gabon, on a exploité pendant 40 ans l'uranium. Mais ce qu'on a produit pendant 40 ans a produit au niveau de la population le taux de cancer qu'on n'a jamais connu. Le cancer de poumon, cancer de...
La radioactivité. Liée à cela.
Mais aujourd'hui... On n'arrive pas à nettoyer cette radioactivité, mais on a exploité l'uranium. C'est cet uranium qui fait de la France l'un des le numéro un mondial du nucléaire, par exemple. Kadiatou. Mais au détriment des populations.
Kadiatou, allez-y.
Oui, aujourd'hui, au cours de cette COP, il y a des États qui veulent une réduction de la hausse de la température à 1,5 degré. Croyez-vous que cela soit possible?
Mais pour que ça soit possible, il faut arrêter d'attribuer des permis pour les multinationales qui viennent faire une exploitation illégale. Il faut arrêter de penser que seule l'exploitation de nos ressources peut générer des revenus. Nous pouvons produire de la richesse en Afrique autrement que d'exploiter de manière anarchique nos ressources, alors que cette exploitation anarchique et intensive ne profite pas à la population, ne crée même pas la richesse.
Monsieur Benjamin Bibas de la Fondation de l'écologie politique, alors comment freiner ces pratiques-là, ce phénomène en Afrique, l'exploitation anarchique du pétrole, de la forêt, tout cela?
D'abord, j'aimerais revenir sur cette notion d'injustice climatique en Afrique. Qu'est-ce qu'on appelle injustice climatique en Afrique? On l'appelle le fait que l'Afrique subsaharienne est la région qui va être la plus impactée par le réchauffement climatique. Ça se voit déjà avec des sécheresses, avec des inondations.
L'érosion côtière.
On a calculé que si la Terre se réchauffe de 2 degrés en 2050 par rapport au début de l'ère industrielle, ce qui était censé être l'objectif de cette COP21, l'augmentation de température sera en moyenne de 3 degrés en Afrique. C'est énorme, avec en plus des sous-régions beaucoup plus impactées que d'autres, notamment le Sahel et la forêt équatoriale du bassin du Congo. Or, l'Afrique est la région qui a le moins émis de gaz à effet de serre, qui sont la cause de ce réchauffement climatique. C'est pour ça que c'est injuste. On estime que l'Afrique a émis seulement 2 à 4% des gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère. Et en plus, l'Afrique a peu les moyens, ou n'a pas l'État, ou n'a pas des États assez efficaces, ou n'a pas d'argent assez, pour pouvoir s'adapter aux conséquences du changement climatique. Premièrement. Deuxièmement, nous, l'optique que nous avons au sein de la Fondation de l'écologie politique à travers cette note COP21 réparer l'injustice climatique en Afrique, c'est que bien sûr, il faut diminuer énormément les émissions de gaz à effet de serre, atteindre 1,5 degré d'augmentation plutôt que 2 degrés, parce que du coup, les conséquences seront moins pires. J'ai bien dit moins pires en Afrique, elles seront quand même dramatiques, mais elles seront moins pires. Et deuxièmement, nous croyons qu'il y a un lien indissociable entre la régulation du climat et la préservation des écosystèmes. Il ne s'agit pas seulement de ne pas émettre des gaz à effet de serre, il s'agit aussi de préserver ces écosystèmes majeurs que sont par exemple la forêt équatoriale, mais il y en a d'autres en Afrique, il y a les océans, il y a toutes les zones humides, il y a le lac Tchad, de façon à ce que la nature puisse elle aussi absorber le CO2 qui est émis. C'est seulement comme ça qu'on aura une régulation du climat convenable. Que faut-il faire? Marcona vous a très bien répondu.
Monsieur Raimundo, est-ce que vous plaidez ici à Paris pour un fonds spécial en faveur de ces différents pays du bassin du Congo et même du golfe de Guinée qui sont en proie à la pollution des industries pétrolières, des pays aussi où la forêt est menacée?
Oui, bon, ici, ils ont parlé de ce qu'on appelle le fonds vert pour l'écologie.
Le fonds vert pour le climat, oui. Ouais,
le fonds vert pour le climat. Et ces fonds verts-là, moi, je trouve un certain danger dans ces fonds verts où ça peut redevenir l'aide au développement que nous savons à quoi ça a servi dans les années avant qu'on commence à parler de tout du climat. Donc, nous revenons à dire que nous ne pouvons pas, en Afrique centrale, atteindre un développement durable lorsqu'il n'y a pas une politique, des régimes politiques qui soient stables, qui soient démocratiques. Vous voyez? Donc, j'ajouterais...
Oui, mais le Nigeria, il y a la démocratie aujourd'hui au Nigeria, mais ça continue, ce sont des pratiques qui continuent au Nigeria. Il y a un président démocratiquement élu qui vient de partir, Goodluck Jonathan, mais on a vu les compagnies pétrolières continuer leur activité de pollution dans le delta du Niger et autres régions du Nigeria. Est-ce que c'est la seule piste? Vous croyez que c'est vraiment lié?
Non, c'est lié... Il faut dire des choses. Les compagnies pétrolières, de plus en plus, ils ont conscience du fait environnemental. On ne peut pas dire aujourd'hui que les compagnies polluent de la même façon qu'ils le faisaient avant qu'il y ait toute cette transparence. Vous voyez, les compagnies font de plus en plus attention parce qu'il y a la société civile qui est derrière. Il y a beaucoup de...
Justement, est-ce que ce n'est pas la société civile aujourd'hui, Monsieur Marc Ona et Sangui, de s'organiser avec les populations pour se faire entendre, pour mettre un terme à tout cela?
C'est pour ça que nous pensons que la population a un rôle fondamental à jouer. Encore faudrait-il que cette population ait la bonne information. Parce que quand vous avez des systèmes, des régimes qui monopolisent des médias d'État, des médias qui sont financés par l'argent du contribuable, pour des propagandes politiques, alors que ces populations ont besoin de la très bonne information pour prendre ses responsabilités. Je vous prends le cas du Gabon, où quand nous avons, la population a su qu'une exploitation du fer, le fer de Belinga, devait porter atteinte non seulement à leur survie, mais aussi à leur zone, la population s'est mobilisée, parce que ces populations avaient la bonne information, qui venait de la société civile, pas des médias du pouvoir. Or, les médias du pouvoir leur vendaient un projet qui allait créer de l'emploi, qui devait enrichir leur zone. Donc, je pense que le travail de sensibilisation est très important. Le travail de... L'Afrique a une tradition de radio. Or, aujourd'hui, on est en train de tuer les petites radios qui peuvent donner la bonne information au détriment des télévisions qui sont entre les mains des gens du pouvoir. Et nous voulons tout simplement que dans les zones rurales, que les radios, les petites radios rurales, servent à véhiculer la bonne information. C'est quand la population aura la bonne information et quand la population va se servir des lois existantes, qui sont des belles lois d'ailleurs, cette population elle-même va prendre ses responsabilités pour combattre les systèmes en place.
Allez-y, M. Raimundo.
Oui, j'aimerais ajouter quelque chose ici. Bon, Benjamin, là, on peut clarifier que la Fondation écologique, ils essaient quand même de... mettre la préservation des écosystèmes dans le sujet quand on est en train de parler ici. Et nos chefs d'État sont venus ici pour parler de réchauffement climatique. Or, nous savons que l'Afrique n'émet pas aujourd'hui une quantité suffisante pour dire que la diminution de gaz à effet de serre que nous allons faire d'ici 20-30 ans seront significatives. Ce que nous on parle aujourd'hui, par exemple, en Afrique centrale, c'est de comment préserver les émissions futures. C'est-à-dire, comment nous pouvons avoir un développement durable de telle façon que nous ne puissions pas, dans le futur, émettre les gaz à effet de serre. Sachant que la population africaine, ce n'est pas simplement en Afrique centrale, va augmenter d'ici 2050. Quel développement nous allons avoir? Pour moi, par exemple, les pays d'Afrique centrale sont suffisamment riches pour pouvoir être suffisamment autonomes, hein, d'être des pays avec une économie durable. Par exemple, la Guinée équatoriale, c'est un cas atypique parmi les autres cas. Ça veut dire les problèmes de corruption, violation des droits humains sont pareils en Afrique. Mais la Guinée équatoriale, c'est un pays de moins de 800 000 habitants qu'il y a eu une croissance économique hors norme. Voilà. Nous sommes passés d'un PIB de 300 dollars par habitant à 26 000 dollars par habitant. Donc, c'est un pays qui pouvait être maintenant à 100% d'énergie renouvelable, mais qui ne l'est pas. Maintenant, lorsque le chef d'État vient parler qu'il faut réparer l'injustice climatique, il voit déjà dans les fonds verts une occasion encore pour pouvoir avoir des moyens pour continuer à faire la même chose, comme ce qu'ils ont fait avec les aides au développement. Donc, il faut être sérieux pour dire à nos chefs d'État, écoute, le problème ici, ce n'est pas que parce que l'Afrique est pauvre, parce que l'Afrique n'a pas de moyens.
Donc écoute, c'est un problème de gouvernance.
C'est un problème de gouvernance.
Merci à vous, Monsieur Raimundo Ela Zlang, ingénieur pétrolier. Vous êtes équato-guinéen. Merci à vous, Monsieur Marc Ona Essangi, secrétaire général exécutif de l'ONG Brian Forest. Vous êtes du Gabon. Et merci également à vous, Monsieur Benjamin Bibas de la Fondation de l'écologie politique pour allez-y.
Je suis français.
Voilà, vous êtes français. Voilà. Pour conduire donc cette émission, j'avais avec moi Kadiatou Ba. Kadiatou, merci. Merci à tous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. À notre tour, nous disons merci à Mouhamadou Touré, notre envoyé spécial à Paris pour la coordination. Merci à l'équipe de la Fondation Hirondelle pour ce spécial grand dialogue au COP21 que vous venez de suivre. L'événement à Paris tire à sa fin. C'est le moment de s'intéresser au bilan et c'est ce que nous allons faire demain dans le forum de la presse. Ce sera toujours à partir de la capitale française. Mise en onde Gagny Kanté, régie vidéo Fili Damélé. À vous, auditrices, auditeurs, merci et à demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.